Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Gilles Durand. Bienvenue dans Première Fois, le podcast de 20 minutes consacré aux premières fois dans le sport avec l'aide de Retro News. Aujourd'hui, nous allons parler football. Voilà longtemps que la Ligue 1 n'avait été aussi ouverte. Cette année, trois clubs peuvent encore décrocher le titre, le PSG, Lyon et Lille. Résultat, fin mai 2021. En attendant, on revient sur le club lillois. Lille fut le premier champion de France professionnel en 1933. Un peu par hasard, comme vous allez le découvrir, le récit de cette histoire étonnante par Mickaël Louchard.
La finale du championnat de France professionnel nous a valu le régal d'un beau match, plein d'ardeur, mené à toute allure par des joueurs dont la qualité technique, le courage et la valeur athlétique sont la consécration de ce professionnalisme absolument indispensable pour élever le niveau du football en France. C'est ainsi que le quotidien Match présentait le 16 mai 1933 cette finale du premier championnat professionnel organisé par la toute jeune Fédération française de football. Sous une pluie battante et dans un stade parisien qui sonnait creux avec ses 16 000 spectateurs, l'Olympique Lillois vient de l'emporter 4-3 devant l'AS Cannes. À l'époque, les instances du football ont joué gros en mettant en place cette nouvelle compétition. Les tenants d'un sport amateur sont encore nombreux, et les relations étroites entre club et municipalité ne facilitent pas toujours cette mutation vers le sport business. À Lyon, par exemple, le maire socialiste s'y oppose farouchement. De son côté, le futur champion lillois, qui deviendra plus tard le LOSC, a même longtemps hésité avant de s'inscrire dans ce championnat. Bien lui en a pris. Après avoir survolé son groupe, l'Olympique lillois gagne le droit d'affronter en finale le premier de l'autre poule. Enfin, presque, car le premier, c'est Antibes. Sauf que quelques jours avant la finale, Antibes se voit rétrogradé pour tentative de corruption et doit laisser sa place au voisin cannois. Dans ce match très rugueux, à en croire la presse de l'époque, on se souviendra surtout du dernier quart d'heure. Deux écoles s'affrontent dans ce duel nord-sud. La vitesse cannoise face à la puissance lilloise. Lille prend rapidement les devants en menant 2-0 avant que le match ne s'équilibre. Il faut alors attendre la 78e minute pour voir le tableau d'affichage s'affoler. En 8 minutes, 5 buts sont inscrits. Cannes a tout juste le temps de savourer l'égalisation à 3 partout que le capitaine lillois, George Winckelmans, surgit pour marquer son second but et offrir la victoire aux siens. Les Dogs, comme on les appelle déjà, sont à tout jamais les premiers champions de France du football professionnel.
Patrick Robert, bonjour. Vous êtes historien du LOSC, auteur de plusieurs livres sur le club. On va revenir donc sur ce premier titre de champion de France. Lille est quand même l'exemple de cette difficulté à prendre le virage du professionnalisme à l'époque. Pourquoi ?
On est au début des années 30. La Ligue régionale est présidée par Henri Juris, qui est également président de l'Olympique Lillois. Et la Ligue régionale, ce sont des matchs qui font le plein dans tous les stades de Lille, de Roubaix, de Tourcoing. Et il se trouve qu'on parle de ce professionnalisme et le comité directeur de la Ligue donne un ultimatum à Henri Juris, son président, pour dire « Attention, si on crée le professionnalisme, les plus gros clubs de la Ligue vont devenir professionnels, il n'y aura plus beaucoup d'attraction pour le public, alors on vous demande de refuser. » Alors qu'Henri Juris était un fervent partisan du professionnalisme. D'ailleurs, il avait été condamné à 2 ans de suspension en 1924 pour emploi fictif dans ces établissements pour un joueur qui s'appelait Bitzel, un anglais.
C'est pour sauver en fait la Ligue
de... Oui, c'est pour sauvegarder l'attrait du football régional contre une aventure qui, à certains yeux, paraît un petit peu hasardeuse. Les gens qui lisent, il vaut mieux aller voir Roubaix contre Tourcoing que Lille contre Marseille. Quoi. En février 32, Henri Juris fait volte-face, il dit « Moi, je vote contre le professionnalisme ». Du coup, il y a un gros débat au sein de son comité directeur, il y a deux dirigeants très importants, qui s'appellent De Crane et Vérone, qui démissionne de l'Olympique Lillois et ils vont trouver le jeune président du Sporting Club Fribourg qui s'appelle Louis Hainaut. Et on dit voilà, l'Olympique Lillois refuse le passage, nous on va vous aider à monter un dossier de, si vous le souhaitez. Alors Louis Hainaut se remue, il a des soutiens financiers très importants sur FIF.
Alors juste pour comprendre, il faut savoir qu'à l'époque, FIF est la ville voisine et rivale de Lille.
Et FIF donc monte un dossier qui est accepté le 22 juillet 1932, c'est-à-dire une bonne semaine de la clôture des candidatures. Du coup, ça fait l'effet d'une bombe à Lille. Henri Joris a démissionné de son poste de président de l'OL et est remplacé par un nommé Gabriel Collet qui lui dit bah, « Écoutez, moi, je fais comme le président a fait. » Donc, nouvelle révolution. Puis finalement, il est forcé de monter le dossier qui sera accepté en fait le 2 août 32, c'est-à-dire
in extremis.
Deux jours après la clôture des délais.
D'accord.
Mais la fédération dit « Bon, c'est ouais. Lille. » On peut pas.
On peut pas se priver de Lille. Et il y avait une autre crainte en fait qui habitait alors à l'époque les gens dans les instances du football, c'était la corruption. On disait qu'un joueur qui était payé pour jouer et gagner, il pouvait aussi être payé pour perdre. Il y a eu plusieurs affaires d'ailleurs dans cette première année de championnat professionnel, dont une affaire justement qui touche le club de FIV. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu en
oui,
quelques mots ?
Écoutez, c'est la dernière journée de championnat 32-33 du premier championnat, donc qui est divisé en deux groupes. Et FIV faisait partie d'un groupe différent de celui de Lille. Et il devait recevoir le football club d'Antibes, qui était en position de leader, mais bon, relativement fragile. Et Antibes est venu gagner à FIV au stade de Félix Virneau, 5-0. Donc il n'y avait pas photo. Sauf que le lendemain de la victoire d'Antibes, le président Hainaut, président du SC FIV, a révélé à la presse qu'en fait, il avait été approché. Il ne faisait pas de relation exacte entre ça et le résultat, mais lui, personnellement, avait été approché par l'entraîneur d'Antibes, un nommé Valère, qui lui avait promis une somme de 35 000 francs, qui correspondrait aujourd'hui à un peu plus de 22 000 euros, et pour perdre le match. Donc il met ça sur la place publique.
Cette corruption a été avérée depuis, parce qu'à l'époque, Antibes contestait, disait que non, c'était en fait pour les rétrogradés, pour sauver des clubs parisiens.
Oui, bon, à l'époque, bon, ils ont protesté. Cela dit, il y a une enquête qui était ouverte à la fédération et on est ressorti que les faits ont été avérés. Et d'ailleurs, le nommé Valère, entraîneur d'Antibes, a été radié à vie de toute fonction dans le football. Ça a fait le bonheur de l'AS Cannes, qui était deuxième du championnat et qui a donc remplacé Antibes pour jouer la finale contre l'Olympique Lillois.
Alors justement, revenons à Lille. Premier championnat, il commence mal en fait, par une défaite à domicile contre Marseille.
Contre Marseille, ouais.
Après, on a l'impression qu'ils sont en roue libre, ils gagnent quasiment tout.
Ce qui est curieux, c'est qu'ils ont perdu deux matchs dans le championnat. Le match aller contre Marseille et le match retour à Marseille. Dans des conditions terribles, parce qu'ils ont pris un score de 7-1 à Marseille. Tous les autres matchs ont été quasiment gagnés ou match nul. Donc très vite, l'Olympique Lillois s'est retrouvé en tête de sa poule.
Qu'est-ce qu'elle avait de plus, cette équipe ? Par rapport aux autres.
C'était une belle équipe, hein. C'était une équipe dans la nouvelle tradition qu'on a retrouvée dans le LOSC des années 40-50, c'est-à-dire une équipe très athlétique, très physique, avec un style très britannique. Et d'ailleurs, il faut reconnaître que dans l'équipe championne de France 1933, l'Olympique Lillois aligne trois Anglais de très bon niveau, Barrett, McGowan et Lutterlott. Donc il n'y a pas de hasard, c'était
une belle équipe.
Une belle équipe.
Plus généralement, on peut dire que le Nord, à l'époque, est une terre de football.
Oui, depuis l'instauration des championnats nationaux et du Trophée de France, on va dire, ça remonte avant la guerre 14. Il y a toujours des équipes nordistes qui font partie du palmarès. Pas seulement l'Olympique Lillois, parce que l'Olympique Lillois a dû attendre 1914, alors qu'il a été créé en 1902. Mais vous avez des clubs comme l'Iris Club Lillois, ancêtre de l'Olympique Lillois, comme le Racing Club de Roubaix, l'US Tourcoing, qui ont été champions nationaux par l'intermédiaire des ligues régionales. Quoi.
Et la même année, en 1933, la finale de la Coupe de France.
Oui, alors c'est formidable parce que 8 jours avant le match olympique Lillois-Escanne qui va décerner le titre champion de France, a lieu la finale de la Coupe de France au stade de Colombes entre deux équipes roubaisiennes, c'est-à-dire l'Excelsior qui était l'équipe professionnelle et le Racing Club de Roubaix qui était resté amateur. Et les professionnels l'ont porté 3-1.
Première fois consacrée au premier championnat de football professionnel, c'est fini. Ce rendez-vous sport est à écouter dans le podcast Minute Papillon, disponible gratuitement sur toutes les plateformes de podcast. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous gratuitement et à très bientôt pour un nouvel épisode.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.